L'atelier des médias.
J'ai plusieurs choses à vous dire pour commencer cette émission. Tout d'abord, je ne serai bientôt plus à ce micro, et ce pour quelques mois. Je prends un long congé que je compte consacrer au repos, à la réflexion et à ma famille. L'atelier continue jusqu'à la fin de ce mois, avec toujours Ziad au micro. Nous terminerons la saison avec deux émissions sur le phénomène des séries. Cet été, en lieu et place de l'atelier, vous pourrez entendre une émission signée Vladimir Cagnolari, réalisation Simon Decreuse. Le nom de cette émission, Simon ?
Ça va s'appeler Comme un roman.
Et est-ce qu'on peut déjà dire de quoi il sera question ?
Oui, il n'y a pas de gros secret. Comme tu l'as dit, c'est Vladimir Cagnolari qui a quitté les antennes il y a une dizaine d'années maintenant pour faire L'Afrique enchantée sur France Inter, qui revient pour cet été avec un concept où il va mêler des extraits de la littérature qui sont soit ancrés dans un moment historique, soit ancrés dans un lieu géographique. Et donc ça va être une alternance de lecture avec des témoignages, soit de ces témoins de l'histoire, soit de ces témoins de ces lieux.
Et nous avons hâte d'entendre cela, d'autant plus que c'est Simon qui va réaliser à la rentrée, c'est-à-dire début septembre. Je serai remplacé à ce micro par quelqu'un qu'on aime beaucoup à l'atelier et qui est aussi avec moi. Salut Julien Lebot.
Bonjour Ziad.
Bienvenue dans l'équipe.
Merci.
Est-ce que tu peux nous donner un avant-goût de ce que tu vas proposer ?
Alors j'ai très très envie à la rentrée de prolonger et de continuer tout le travail de défrichage qui a été fait depuis de nombreuses années par l'atelier, et puis j'ai envie de continuer aussi avec toute l'équipe qui est en studio à interroger, à aller chercher un peu ces nouvelles pratiques journalistiques et aussi à voir, à comprendre ce que le numérique change en ce bas monde.
Bienvenue, Manon Mella, Mathias Virilli, Camille Deloche, Mélissa Barra et tous les autres amis de l'atelier seront toujours en place. Voilà pour au revoir au sens premier du terme, car vous me reverrez mi-février. D'ici là, si tout va bien, j'aurai réfléchi à la manière de vous proposer des émissions plus élaborées et plus curieuses. Je ne vous en dis pas plus car je n'en sais pas plus. Je suis Ziad Malouf, vous écoutez l'Atelier des médias. Aujourd'hui, nous apportons une forme de conclusion à notre série Printemps des médias. Le Printemps des médias, c'est ainsi que l'Atelier appelle ces émissions qui présentent des projets de journaux, de radio, de télé innovants, différents, jeunes. Ce que beaucoup de ces projets ont en commun, c'est qu'ils naissent au sein de structures d'accompagnement de jeunes pousses, de start-up. On appelle ces entités des incubateurs. Et à l'occasion des Assises du journalisme, en mars dernier, j'ai enregistré une table ronde dont le titre était « Des incubateurs pour les médias ?» Point d'interrogation. Réponse au pluriel dans les 45 minutes à suivre. Restez avec nous.
L'Atelier des médias.
RFI.
Ziad Malouf, Simon Decreuse. Yeah.
Et vous.
You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline blink, that can only mean one thing. I know when that hotline blink, can only mean one thing. Ever since I left the city, you got a reputation for yourself now. Everybody knows and I feel left out. Girl, you got me down, you got me stressed out. 'Cause ever since I left the city, you started wearing less and going out more. Glasses of champagne out on the dance floor, hanging with some girls I never seen before. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. Ever since I left the city.
Le titre de cette rencontre doit sembler ésotérique pour quelques-uns d'entre vous, d'entre nous. Qu'est-ce qu'un incubateur ? Quelle relation peut entretenir ce concept lié à l'univers des startups et plus généralement de la Silicon Valley avec la presse, avec les sites d'information, avec les médias en général ? Que peuvent apporter des incubateurs à l'écosystème de l'information ? La philosophie liée à ces objets de la nouvelle économie est-elle compatible avec une information indépendante, sérieuse, utile ? On va tenter d'apporter des éclairages à ces questions aujourd'hui en partant de l'expérience de nos invités. Autour de la table, nous avons des représentants de structures ayant incubé, accueilli de jeunes pousses médias, des fondateurs, cofondateurs d'incubateurs dédiés aux médias, des incubés également, un au moins, et probablement d'autres dans la salle qui pourront réagir, partager leur expérience. Donc je vais présenter mes invités au fur et à mesure, et en plus ce qui est très bien, c'est qu'ils ont été particulièrement bien choisis. Je le dis avec d'autant plus de facilité que c'est pas moi qui les ai choisis, et je pense qu'ils ont un peu tous leur part à raconter dans cette histoire. On va commencer avec toi, Maëlle Inizan, bonjour.
Bonjour.
Tu as été journaliste, je ne sais pas si on peut dire que tu es encore journaliste, non.
Je ne suis plus journaliste aujourd'hui, mais j'ai été journaliste.
Journaliste pendant plusieurs années, tu es aujourd'hui directeur de programme pour Numa, ok. Numa, c'est un lieu initialement parisien, parce qu'il y a plusieurs branches de Numa, qui est dédié à la culture numérique, et plus spécifiquement à l'entrepreneuriat dans ce secteur. Et parmi ces activités, il y a l'incubation. Premier exercice, qu'est-ce que c'est qu'un incubateur ?
Alors, nous, on ne fait pas exactement de l'incubation. Nous, on est plus sur de l'accélération. Ce qui distingue l'incubation de l'accélération, c'est que sur l'incubation, on va être sur des phases qui sont plus longues, mais moins intensives. Sur l'accélération, on va être sur des phases qui sont très courtes. Nous, quand on accélère des projets chez nous, des startups, c'est des startups qui vont venir pendant 4 mois. Donc, c'est extrêmement court et sur des moments qui sont des moments assez pivots pour elles. On prend beaucoup de startups qui sont en phase de lancement, donc qui viennent avec un prototype. Et pendant 4 mois, on va les accompagner pour qu'elles sortent un réel projet, qu'elles définissent qu'est-ce qu'il doit y avoir dans un projet pour que ça ait de la valeur, avec une première base de business plan qui va souvent évoluer, des premiers clients et éventuellement au passage une levée de fonds pour pouvoir continuer le développement.
Donc on comprend par là qu'il y a toute une typologie de l'incubation. On peut parler donc dans votre cas d'accélération. Et on peut considérer que l'accélération, ça fait partie des fonctions d'un incubateur, c'est ça ?
Plus ou moins, en général, on va avoir, c'est plutôt à différents moments de la vie d'une start-up. On peut parler de Nunki, par exemple, qui est venu chez nous avec son premier prototype, qui a créé son projet chez nous. Et une fois qu'ils ont créé ce projet, ils ont été incubés, cette fois, chez Amaury Lab. Où là, c'est une seconde phase de leur projet qui est plus sur le développement. Et donc, on va avoir beaucoup de nos projets qui partent dans d'autres incubateurs. Il y a Paris & Co. à Paris, qui a tout un réseau d'incubateurs, par exemple. Il y a de plus en plus de marques, de groupes qui créent leurs propres incubateurs dans lesquels beaucoup de nos startups vont.
Comment ça se passe pour intégrer cet univers ? Donc, dans un premier temps, pour arriver chez vous, être accéléré, ensuite aller ailleurs. Comment ça se passe concrètement ?
C'est assez difficile, c'est très sélectif. Il y a un processus de sélection qui est assez rigoureux. On a autour de 600 à 700 candidatures tous les ans pour aujourd'hui une vingtaine de places. Donc c'est assez difficile. On va passer des plusieurs étapes de jury, pouvoir démontrer ce qu'on demande à nos startups. Et on les sélectionne sur le gros critère, c'est l'équipe. C'est à la fois ses compétences, que les compétences soient les bonnes pour porter le projet, mais son expertise aussi sur le secteur qu'ils veulent couvrir. Et à partir de là, ce qu'on va leur demander aussi, c'est d'avoir un certain nombre de preuves de concept, c'est-à-dire pas simplement venir avec une idée, mais venir avec un certain nombre d'indicateurs qui nous montrent qu'ils ont testé l'idée, ils l'ont à petite échelle, ils ont essayé de la mettre en place, et on a des bons indicateurs qui montrent que ça produit quelque chose et qu'on a suffisamment d'indices pour se dire que ça vaut le coup d'aller plus loin.
Est-ce que ce type de modèle, c'est conciliable avec des modèles économiques coopératifs, avec des modèles économiques à but non lucratif, des modèles économiques de fondation et des modèles qui sont préconisés aujourd'hui pour une presse indépendante, justement?
Alors, il y a des accélérateurs et des incubateurs qui... Pas en France, à ma connaissance. Enfin, si, il y a tout ce qui est économie sociale et solidaire qui arrive pas mal. Qui sont plus sur ces modèles. Nous, à Numa, on l'est pas du tout. On est vraiment sur les boîtes qu'on accompagne. Enfin, c'est des entreprises qui sont pas forcément à but extrêmement lucratif. Le critère, c'est pas qu'elles fassent le plus d'argent possible, mais on va accompagner vraiment des entreprises.
Donc, on a bien compris, Numa, c'est un lieu qui accélère des entreprises dans toutes sortes de domaines. On va se spécialiser un petit peu avec toi, Émilie Friedli. Tu es directrice adjointe de Creatis. Tu es de l'autre côté du boulevard de Numa, hein, c'est ça ?
C'est ça.
À la Gaîté Lyrique, et là c'est un incubateur, je ne sais pas d'ailleurs, votre lieu se présente comme une résidence d'entrepreneurs culturels. Il y a 50 places en incubation, 70 en coworking, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Alors peut-être que tu veux apporter aussi ta pierre à l'édifice de la compréhension de ce qu'est un incubateur. Vous n'êtes peut-être pas non plus un incubateur, hein.
Si, en fait, effectivement, ce qui se cache derrière le mot résidence, c'est ça, c'est à la fois un incubateur où là on accompagne les projets dans leur développement, et puis un espace de coworking où on vient essentiellement chercher des bureaux, internet, une cuisine partagée, des espaces partagés avec parfois, et c'est notre cas, une petite couche d'accompagnement supplémentaire. Voilà.
Donc, vous n'avez pas de spécificité média, mais vous incubez, ou en tout cas accueillez, je ne sais pas, c'est à toi de le dire, des médias comme BriefMe, donc une newsletter d'information qui s'est lancée il y a 2 ans, je crois. Contexte, on va en parler. Vous accueillez aussi le SPIL, le syndicat de la presse indépendante en ligne. Donc, vous avez une expérience dans les médias, même si ce n'est pas votre spécialité, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Creatis a été créé en fait en 2012, installé au cœur d'un établissement que vous connaissez peut-être qui s'appelle la Gaîté Lyrique, voilà, qui est un lieu dédié au digital et à la culture, un peu patchwork avec des expos, des conférences, des concerts, etc. Et l'objectif au départ, c'était vraiment de créer un lieu qui pourrait accueillir des entrepreneurs plutôt au départ en incubation, des secteurs culturels, donc c'est le cinéma, l'audiovisuel, la musique, les arts vivants, ça va jusqu'à l'art culinaire. Voilà, et puis on a eu un média, puis deux, puis voilà, de plus en plus, aujourd'hui, on doit avoir 15 à 20% de nos sociétés qui sont des médias. Et puis, donc, cette distinction incubation-coworking. Aujourd'hui, nos médias sont essentiellement dans l'espace coworking. Voilà, d'accord. C'est là qu'ils se sont rassemblés.
C'est quand vous acceptez quelqu'un, j'imagine qu'il y a des dossiers, on vous envoie des dossiers. Qu'est-ce qui se passe derrière ?
Alors derrière, les sociétés, on va les accompagner. On va les accompagner individuellement. Donc on va les rencontrer tous les mois.
C'est qui ? C'est vous ?
Alors c'est l'équipe, c'est le staff de Creatis. Voilà, on a un responsable des partenariats qui va s'occuper, lui, plus spécifiquement de toutes les connexions qu'on va pouvoir faire entre nos résidents et l'écosystème. L'écosystème, c'est l'établissement dans lequel on est installé, la Gaîté Lyrique. Et puis l'écosystème beaucoup plus vaste de Saint-Thio, qui est la holding à laquelle on appartient et qui réunit une quinzaine d'entreprises de la culture indépendante. Donc ça, c'est important, c'est comment on s'inscrit dans l'écosystème. Donc on va les accompagner à se connecter à cet écosystème. Ensuite, on va les accompagner dans leur business. Donc on a des rendez-vous très généralistes tous les mois. Là, on a quelqu'un qui s'occupe de soi, qui les rencontre et qui les suit. Et puis qui, tout au long de leur parcours, va les connecter aux experts et aux mentors de Creatis. Voilà. Et à côté de ça, on organise des suivis qui sont plutôt collectifs, où là, on se rencontre, on échange entre sociétés qui rencontrent les mêmes problématiques.
Et donc, vous, votre offre, c'est on vous accepte dans Creatis, on vous donne ça gratuitement, c'est ça ?
Absolument pas.
Absolument pas, voilà.
Et là, on parle du modèle économique.
Oui.
OK. Nous, on fait payer donc aux entrepreneurs qui souhaitent rejoindre la résidence un forfait qui est différent en fonction de si on choisit le coworking ou si on choisit l'incubation. Effectivement, quand on choisit un forfait incubation, et ben tout l'accompagnement, presque tout l'accompagnement est inclus. Et de temps en temps, il y a des modules qui s'ajoutent. On va aussi les aider à trouver des financements. Ça, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est quand même assez important. Après, il y a des sociétés pour lesquelles c'est pas forcément le bon moment ou on n'est pas forcément le bon interlocuteur. Et il y a des sociétés qu'on n'accepte pas pour ces raisons-là. Si pour la société, c'est le moment de se concentrer sur son produit ou son service, qu'elle n'a pas forcément les moyens de se payer une incubation à Creatis et qu'on pense que c'est une mauvaise chose pour eux de venir maintenant, on va plutôt se donner rendez-vous dans 6 mois.
On va revenir juste à notre sujet avant de donner la parole à Jean-Christophe en tant que témoin. Vous incubez toutes sortes d'entreprises, mais des entreprises médias également. Oui. Est-ce qu'il y a une différence entre des entreprises culturelles lambda, donc par exemple des éditeurs numériques ou des choses comme ça que vous avez pu incuber, et des entreprises liées aux médias ou à la presse plus particulièrement ?
Alors, c'est vrai que la culture, pour moi, c'est pas un secteur, parce que c'est de la musique, c'est du cinéma, c'est de l'audiovisuel,
et
puis il y a les médias.
Aussi.
Donc du coup, effectivement, tous ces entrepreneurs, ils ont des points communs, ils vont se poser des questions business, ils vont se poser des questions design, ils vont se poser des questions techno, ils vont se poser des questions juridiques. Donc tout ça, c'est des questions qui vont tous se poser. Et donc, c'est des réponses qu'on va pouvoir leur apporter à tous lors d'ateliers collaboratifs, etc. Après, c'est vrai, et là Jean-Christophe pourra en parler encore mieux que moi, on est en train d'identifier effectivement des besoins spécifiques aux médias. Des questions comme la gestion des abonnements sur un site, le droit de réponse, voilà des questions qu'on peut nous poser de ce type-là. On sait que aujourd'hui, on héberge le SPIL, et le SPIL concentre ou rassemble un petit peu tous ces questionnements et puis y apporte pas mal de réponses. Donc oui, il y a des questions spécifiques aux médias. Voilà.
On va donner la parole à Jean-Christophe Boulanger. Bonjour Jean-Christophe. Tu es donc président du SPIL, le syndicat de la presse indépendante d'information en ligne, et tu es également PDG de Context. Ces deux structures sont hébergées, incubées, tu vas nous le préciser, donc au sein de Creatis. On peut commencer avec Context, c'est un journal de politique publique française européenne. Qu'est-ce que c'est l'incubation pour ton média à Creatis ? Ou ça n'est peut-être pas une incubation, explique-nous.
On est effectivement hébergé dans Creatis depuis la création de Contexte, il y a 2 ans et demi. Dans l'entreprise précédente que je gérais, on était aussi dans un incubateur qui s'appelle Co-Spirit. Pendant plusieurs années, on y était très bien.
Et on peut rester aussi longtemps qu'on veut dans ces espaces, en fait ?
Ça dépend lesquels. Certains ont des contraintes, c'est pas le cas de Creatis, il n'y a pas de limite de temps. Et en fait, on y avait trouvé plusieurs choses. On était une petite entreprise de 6 personnes à l'époque. Et notamment le fait d'une émulation, le côté psychologique, de ne pas être tout seul dans un bureau à quelques-uns, mais de partager à la machine à café des moments sympas, de rencontrer des gens. Ce qu'on a dans les grandes entreprises, ce qu'on n'a pas dans les toutes petites entreprises. On avait aussi trouvé des discussions avec d'autres acteurs complètement hors presse qui nous ont été très utiles. Quelqu'un qui s'occupait de formation. Du coup, on a réfléchi à des offres de formation. Et en fait, ça permet de partager dans des moments quotidiens un peu anodins des idées, des choses qui permettent de nourrir plein de réflexions. Et donc, quand j'ai lancé Contexte avec mes associés, j'ai cherché un incubateur encore plus adapté. Et celui qui me semblait le plus proche des problématiques presse, c'était effectivement Creatis, qui est spécialisé entreprise culturelle. Et donc, on a trouvé là un espace où on a retrouvé ces partages avec d'autres entreprises, hors de la presse, mais dans le secteur culturel. On a retrouvé aussi un espace très agréable avec une mutualisation de services qu'on ne pourrait pas se payer seul, que ce soit des salles de réunion, que ce soit des ateliers organisés par Creatis sur des thématiques qui intéressent les entrepreneurs et qu'on n'aurait pas eu le temps d'organiser tout seul. Donc c'est aussi un gain de temps de partager certaines ressources.
À quel moment, toi, en tant que donc créateur d'entreprise et créateur de médias, tu te dis « je veux être dans ce type de lieu et pas avoir, comme ça a été pendant longtemps le cas, mes propres locaux ?» etc. Est-ce que c'est quand tu te dis, quand tu regardes le prix des loyers à Paris? Est-ce que c'est quand tu regardes d'autres choses? Est-ce que tu considères d'autres choses? Ou comment tu vas te financer? Ou si tu cherches des financements ou des choses comme ça?
Honnêtement, c'est pas le prix qui fait la différence. Sur ce qu'on paye à Creatis, on paierait à peu près autant en ayant un bail direct, un bureau à nous ailleurs dans Paris. Les subventions. On peut obtenir des subventions en étant dans certains incubateurs, mais on peut aussi en obtenir sans être dans des incubateurs. C'est pas le prix qui fait la différence. Ce qui fait la différence, c'est vraiment le service, le quotidien, l'aspect sympa et émulant de ce quotidien.
Et ça donne quoi concrètement pour un média comme le tien d'être dans ce type de contexte? Qu'est-ce que ça vous a apporté concrètement?
Concrètement, il y a eu plusieurs acteurs presse qui sont venus aussi dans Creatis après Contexte.
Vous avez recruté votre directeur technique chez Brief.me.
Tout à fait,
oui.
Par exemple.
Damien
par
Sirotto.
Exemple, voilà, exactement. Damien qui était juste à côté et qui a maintenant rejoint Contexte. Il y a des discussions à la machine à café, en fait, que ce soit avec l'imprévu qui est arrivé il y a quelques temps, avec Sun 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 qui était à côté, il y a plein de discussions anodines qui créent de la valeur sans qu'on s'en rende compte forcément tout de suite.
Et du point de vue du financement, par exemple, vous avez touché de l'argent du fonds Google, 441 000 euros pour Contexte. Est-ce que ce genre de choses-là, on les obtient aussi parce qu'on est dans ce type d'environnement?
Pas vraiment. Il y a juste une subvention accordée par la BPI et la mairie de Paris.
Donc la BPI, c'est la Banque publique d'investissement, donc qui est censée soutenir l'entrepreneuriat.
Tout à fait. Il y a une subvention de 30 000 euros maximum qui est réservée aux entreprises hébergées dans des incubateurs agréés, dont Creatis fait partie. Mais c'est la seule subvention.
Et ça, vous l'avez obtenu, par exemple?
Tout à fait, tout à fait. C'est la seule subvention qui est réservée aux incubateurs. Toutes les subventions, en général, pour les entreprises en création ou les subventions dédiées au secteur presse, ne sont pas du tout liées au fait d'être dans un incubateur ou non.
Et tout à l'heure, il a été mentionné un pool d'investisseurs ou de choses comme ça. Ça, ce sont des choses auxquelles vous souhaitez avoir accès quand vous êtes dans ce type d'écosystème ou pas du tout? Ou vous n'y avez pas accès parce que vous êtes juste colocataire et pas incubé?
Nous, on n'a pas besoin de faire de levée de fonds, en fait, à Contexte. Donc, on n'a pas cherché, on n'a pas trouvé d'utilité dans ce service-là. Mais en fait, c'est des services à la carte aussi, un incubateur. Tout le monde n'a pas besoin de tout.
Toute dernière question, très rapidement. Est-ce que ça t'a posé problème ou ça a posé problème à tes équipes journalistes, parfois, d'être dans ce type de contexte, de ne pas être dans des endroits isolés où on peut s'enfermer, avoir des... Parce que vous touchez, donc vous parlez de politique publique européenne, française, ce sont parfois des questions sensibles. Est-ce que ça pose aussi des soucis, ça?
Non, pas du tout, en fait. Au contraire, c'est-à-dire qu'on a des salles de réunion qu'on ne pourrait pas se payer nous tout seuls. On a accès aux infrastructures de la Gaîté Lyrique. Non, il n'y a aucune contrainte. Ouais, il n'y a que des bénéfices. À partir du moment où on n'est pas dans un open space, quand on a besoin de pas l'être.
Courte pause dans l'atelier, restez avec nous. Dans la deuxième partie, nous allons découvrir des incubateurs spécialisés médias. À tout de suite.
Atelier@rfi.fr.
Le débat.
L'atelier des médias.
Atelier des médias, des incubateurs pour les médias, point d'interrogation. C'était le thème d'une table ronde enregistrée en mars dernier aux Assises du journalisme. Pour clore notre série Printemps des médias, nous vous proposons aujourd'hui d'entendre une version radio de cette rencontre. Pour les non-initiés, un incubateur est une structure qui accompagne les jeunes entreprises, particulièrement les start-up ou jeunes pousses. Bienvenue à vous, restez avec nous pour en savoir plus.
L'atelier des médias. La web émission participative.
RFI.
Ziad Malouf, Simon Decreuse.
Et vous,
Bonjour Nathalie Guichère. Vous êtes, vous, responsable d'un incubateur de start-up qui est porté par le groupe Amaury, qui s'appelle Amaury Lab. Donc là, on est de plus en plus spécifique. Là, c'est un incubateur qui a été développé au sein d'un groupe de presse en partie.
Le groupe Amaury rassemblait Le Parisien, L'Équipe et ASO, qui est une société d'organisation d'événements sportifs. Et donc, on a créé notre incubateur fin 2014. Donc, c'est un modèle un petit peu différent. Nous, on est là pour créer des passerelles entre nos métiers presse et des start-up qui ont pour business model d'apporter des solutions pour la presse.
En 2014, vous vous êtes dit, on va faire... Vous n'êtes pas les premiers dans le monde à le faire. Hein, ça avait déjà été fait ailleurs. Vous vous êtes dit, on va faire au sein de notre groupe, on va faire venir des petites entreprises, ou en tout cas, on va les accompagner parce que le sujet sur lequel elle travaille nous intéresse à nous en tant que groupe média. C'est ça en gros ?
Oui, on est parti du constat. Donc le secteur presse, pour rappeler, est un secteur particulièrement en difficulté, puisqu'en 5 ans, on est passé d'un volume d'affaires de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires à 7,5 milliards d'euros. Donc en 5 ans, on a perdu un quart globalement, les éditeurs de presse ont perdu un quart de leur volume d'affaires. Et finalement, on se rend compte que le schéma des entreprises de presse n'est pas adapté aux nouveaux enjeux du marché. C'est-à-dire qu'on va de plus en plus faire des solutions très technologiques. Nos équipes ne sont pas formées pour ça. Et finalement, on a voulu diffuser l'innovation à l'intérieur des équipes et créer en fait une passerelle réelle entre un grand groupe et des entreprises qui travaillent sur la presse et qui sont très agiles.
Et donc en 2014, vous avez décidé de faire une sorte de concours pour recruter des start-up candidates. Vous en avez recruté 4. On va citer ce qu'elles font, comme ça donnera une idée. Glory for Gamers, qui fait des tournois de jeux vidéo en ligne. Nunki, on en a parlé rapidement, qui fait de l'agrégation de contenu. OwnPage, qui fait donc une solution pour des newsletters. Et OmniLive, qui est un lecteur vidéo multicaméra. On comprend immédiatement avec ces exemples que ce ne sont pas des entreprises d'information, mais plutôt des entreprises de solutions techniques pour vous, entreprises d'information. C'était ça l'idée.
C'est ça l'idée. C'est on a déjà nos propres médias, puisque on est à la fois présent sur le print, sur le web, sur la télé pour l'équipe, et donc on cherche des solutions pour nous aider à avancer plus vite. On est parti du constat que l'innovation venait de l'extérieur et plus de l'intérieur des entreprises, et le but, ça a été d'intégrer ces nouvelles solutions à l'intérieur de nos équipes opérationnelles.
Donc il y a un côté utilitaire en fait, c'est-à-dire que je dis pas ça de manière péjorative, mais il y a un côté où vous cherchez des solutions, ça va être utile pour votre entreprise parce que vous allez faire de l'émulation dans l'innovation, et ça va être utile aussi parce que ces sociétés vous apportent des outils, tout simplement.
Oui, mais c'est surtout un échange de bons procédés, et surtout un avantage énorme pour ces sociétés qu'on choisit, parce qu'elles sont finalement confrontées à des audiences qui sont juste énormes, une vingtaine de millions de visiteurs uniques par mois.
Parce que vous leur faites de la publicité, du coup ?
Non, pas du tout. Alors, on n'est pas sur du Media for Equity, on est sur justement développer des projets précis. Alors par exemple, quand on développe une newsletter spécifique pour répondre aux centres d'intérêt des lecteurs, on a une société qui s'appelle OnPage, qui est spécialisée dans l'intelligence artificielle et qui va détecter les centres d'intérêt des lecteurs en fonction de leur parcours de navigation. Donc c'est vraiment une société hyper technologique.
Ouais, et donc c'est un outil qui est utile, et les 20 millions, donc ce sont vos utilisateurs, voilà. Et vous les confrontez à ça. Qu'est-ce que ça apporte à ces petites entreprises d'être incubées par Amaury Lab?
Ça leur apporte
de l'argent.
Non.
On leur donne pas d'argent, pour l'instant.
Vous leur payez un loyer? Parce que vous les hébergez chez Cargo, vous leur payez le loyer ou ils le payent eux-mêmes?
Alors pas au Cargo, l'ancien Paris Nord Express, donc en collaboration avec Paris & Co. Donc tout ce qui concerne l'hébergement, c'est eux, enfin ils vont avec Paris Nord Express.
Donc ils payent leur hébergement auprès de leur incubateur.
Tout à fait.
Vous leur trouvez des places dans cet incubateur,
exactement. D'accord. Et ensuite nous on les aide à accélérer leur solution par de l'expertise métier, des formations. Et donc un contact direct avec toutes les directions de l'entreprise.
Alors, donc première saison, ça s'est plutôt bien passé parce que finalement, il y a eu du transfert, il y a des choses qui ont été développées grâce à cet incubateur.
Oui, sur la première saison, donc on avait 4 startups. Et sur ces 4 startups, il y en a 3 qui ont créé des nouvelles pistes d'expérimentation pérennes au sein du groupe.
Il y a même eu des développements éditoriaux avec...
Oui, tout à fait.
Ouais, vous pouvez donner
donc,
un exemple.
Alors, Nunki, qui part du principe que chaque possesseur de smartphone est un photoreporter en puissance, récupère sur Internet par géolocalisation des photos qui ont été postées et on a mis à disposition de nos rédactions une façon de, enfin, un outil pour récupérer des photos et pour illustrer un événement dès qu'il est survenu sans attendre que les journalistes soient sur place.
Donc la rédaction utilise les photos amateurs. Est-ce que par exemple l'entreprise qui fait des tournois de gamers, vous vous intéressez maintenant à l'équipe aux tournois de gamers ou des choses comme ça?
Ça,
les gamers, ce sont les joueurs de jeux vidéo.
Voilà,
pardon,
alors c'est un peu plus spécifique pour l'équipe, bien sûr, qui est un média sportif. On a choisi d'incuber une société qui organise des tournois de jeux vidéo en ligne. Et finalement, ça a été une expérimentation qui nous a permis de détecter un vrai intérêt des lecteurs de l'équipe pour ce secteur d'activité. Et de l'intégration de ces tournois de jeux vidéo, on en a créé une vraie branche éditoriale spécifique sur l'e-sport. Et aujourd'hui, sur le vendredi soir, sur l'équipe TV, on a des joueurs qui s'affrontent sur FIFA 16. Et donc, on fait des portraits de joueurs, des portraits de spécialistes. Et donc, on a des très, très belles audiences sur ce sujet. Donc, finalement, on voit que de la petite expérience, on arrive à créer des vrais nouveaux segments d'activité. Et on arrive à adresser des nouvelles communautés de lecteurs qui ne seraient pas venues chez nous autrement.
Là, il y a donc une deuxième saison qui a été lancée. J'ai eu du mal à trouver des informations.
Oui.
Normalement, vous deviez recruter entre 3 et 5 startups.
Oui.
Finalement, vous n'en avez recruté que 2. Entre-temps, bien sûr, le groupe a changé puisqu'il n'y avait plus le Parisien. Et vous avez décidé là de ne recruter que des entreprises qui avaient des solutions liées au sport, c'est ça ?
Oui, tout à fait.
Puisqu'il ne reste que l'équipe en termes de médias.
Voilà, tout à fait.
Et ASO.
Mais c'est des solutions qui sont éditoriales avant tout. La donnée dans le sport et surtout des vidéos immersives qu'on applique.
Et moins d'entreprises parce que finalement, ce n'est pas si facile que ça, même au sein d'un... Enfin, voilà, de porter ce type de projet au sein d'un groupe.
Je dirais pas que ce n'est pas facile, mais il faut s'assurer que les experts métiers qu'on engage pour 12 mois pour suivre des entreprises aient la capacité pendant 12 mois de suivre et d'expérimenter avec ces entreprises. Et on ne veut pas surpromettre à ces entreprises qu'on va faire des choses ensemble et ne pas respecter nos promesses.
Du coup, il y aura une troisième saison ou c'est trop tôt pour
vous ?
C'est sûr. Donc vous allez continuer malgré les difficultés.
C'est une initiative pérenne puisqu'on a quand même constaté que ça marchait vraiment. Les startups de plus en plus viennent taper à notre porte. Et donc, c'est extrêmement positif.
Autre exemple d'incubateur développé par un média. Bonjour, Johan Weissmera.
Bonjour.
Tu es donc fondateur de Street Press et cofondateur de Media Maker. Media Maker qui se présente comme un incubateur découvreur et accélérateur de médias innovants. Explique-nous, raconte-nous.
Je suis le fondateur de Street Press. Street Press, c'est un mag en ligne pour la nouvelle génération. Aujourd'hui, c'est 800 000 lecteurs uniques sur Street Press. C'est un canard qu'on a lancé avec nos petits bras, sans canevas d'accélération ou d'incubation dans les grandes lignes. On l'a lancé parce qu'on avait un projet éditorial. Vous avez une dizaine de personnes, un petit peu plus maintenant, qui travaillent sur Street Press. C'est un média qui fonctionne, qui a touché un lectorat, qui a encore plein de challenges, mais qui a aussi posé des jalons pour une viabilité économique. Et dans ces 6 ans qu'on a de Street Press, on a fait des erreurs, on a eu des succès, on a créé un projet éditorial avec un ton, une voix.
Toi aussi, je ne l'ai pas dit, mais toi aussi, tu as une formation commerciale. Tu as fait l'ESSEC, donc une école de commerce aussi.
Formation commerciale, je ne
sais pas
si c'est ce que j'ai le plus dans mon ADN, mais j'étais étudiant à l'ESSEC.
Ouais. Donc tu as un profil aussi entrepreneur dans ta formation.
Ouais. En fait, j'étais étudiant à l'ESSEC. Je ne sais pas si on peut raconter notre vie là. Mais,
c'est
et en fait, je n'ai pas eu de pré-étudiant. J'ai dû trouver un boulot. Et le boulot que j'ai trouvé, c'était flashman dans une petite radio locale à Paris. Et après, en fait, il s'est trouvé que j'ai fait que journaliste pendant ces études, qu'on m'a jamais vu aux inénarrables soirées de l'ESSEC, on m'a pas vu non plus dans les juniors entreprises ou tous ces trucs-là très business. Donc je me suis retrouvé en fait à la fin de l'ESSEC avec un diplôme d'une grande école, mais j'avais écrit un bouquin, j'avais fait des reportages partout, mais j'avais jamais travaillé dans une entreprise en fait. Donc si vous voulez un manager, etc., peut-être choisissez Jean-Christophe, il a fait HEC, qui est une école beaucoup plus valable, qui vérifie que les mecs travaillent dans des entreprises pendant leur cursus. Ce que j'ai vu dans ces 5 ans, parce que normalement c'est 3 ans, mais j'ai eu des errements dans ma scolarité.
Les 50, ah, c'est les 5 ans de ta scolarité,
ouais,
là.
Les 5 ans de ma scolarité au lieu de 3. Ce que j'ai vu, j'étais pigiste, en fait. J'étais pigiste, et je voyais des rédacs assez grosses où je collaborais, où une idée, pour qu'elle fasse son chemin et qu'elle devienne un projet, était un chemin...
De croix.
Impossible, en fait. Et du coup, en sortant, quand on a 25 ans et on sort de l'école et on a plein d'idées, des projets éditoriaux, etc., on se dit que si on veut les mettre en œuvre et les voir se réaliser, ça va se passer par un projet qu'on va créer. D'où Street Press, en fait. Et du coup, Street Press, on l'a créé, mais il n'y a pas eu d'accompagnement dédié à ce que c'était qu'un projet éditorial, de comment est-ce qu'on parlait aux lecteurs, comment est-ce qu'un bon article allait être rentable ou au moins ne pas perdre d'argent pour qu'on puisse faire un deuxième article.
Puis il y avait même à la base ça s'appelait Street Reporter, donc il y avait un modèle éditorial qui était basé sur le participatif, etc. Enfin c'était la grande époque du participatif, ouais, qui a été finalement repensé. Aujourd'hui, même si vous gardez une part de participatif, c'est quand même un vrai modèle journalistique avec des enquêtes, etc. Du travail de journaliste. Non.
On essaye. Et c'est vrai qu'il y a eu une phase de laboratoire parce qu'on a eu un premier projet qui s'est complètement cassé la gueule. Avec tout ce qu'on peut avoir dans une boîte ou un projet éditorial, on a eu, je pense, à peu près tout. C'est-à-dire que vous lancez une boîte, il y a toutes les chances, statistiquement, qu'elle ferme dans les 5 ans. Vous lancez une boîte de presse, il y a encore plus que toutes les chances pour qu'elle se casse la gueule dans les 5 ans. En fait, c'est très dur. Lancer un projet éditorial, s'il y a un minimum d'idées, de valeurs, etc., ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Parfois, ça rentre complètement en contradiction avec des challenges économiques, avec des questions de management, avec comment est-ce qu'on va manager des équipes quand on veut qu'elles soient juste jamais dans les bureaux et toujours en reportage, etc., etc. Donc, on a plein de challenges sur un projet média qui sont souvent pas pilotables, pas coachables avec les critères classiques et la grille classique d'accompagnement d'un projet. D'où, nous, l'année dernière, en 2015, l'idée de lancer Media Maker, qui est un incubateur pour projets éditoriaux innovants. Grosso modo, le parti pris, c'était de dire, pour les startups qui ont des projets éditoriaux à forte valeur ajoutée, il faut un endroit et surtout un accompagnement qui fasse que tout ce qui est de l'ordre de l'accompagnement d'un projet business, parce qu'à un moment donné, même si c'est une association, même si c'est une structure d'intérêt général, il faut qu'il y ait une viabilité économique, mais aussi mettre dans ce package-là d'accompagnement tout l'accompagnement qui est lié à l'éditorial. Et faites le test, faites un business plan de start-up média ou de magazine ou journal, présentez-le dans une structure d'accompagnement à l'entrepreneuriat classique. À un moment donné, le chargé d'affaires va vous dire « Oui, mais vous aurez combien de lecteurs dans 3 ans ?» Et là, vous avez envie de lui dire, il y a un petit peu d'intangible, cher ami. Mon article, il va avoir d'abord un rôle social fort. Peut-être qu'il va être repris par d'autres, ça va lui donner un fort écho, mais du coup, je vais avoir atteint mon objectif. Peut-être que je vais avoir beaucoup de viralité, mais je suis incapable de vous dire si j'ai 1,5 million ou 3 millions de visiteurs uniques en juin 2020. C'est pas possible. Et du coup, cet intangible-là, à un moment donné, il faut savoir le gérer. Il faut aussi savoir accompagner la partie éditoriale parce qu'un média, c'est pas qu'un produit qu'on package et qu'on vend. Et du coup, Media Maker, l'idée, c'était de dire on va aller faire savoir qu'on peut créer des médias parce que c'est important, et c'est aussi une des idées de ce projet, que la nouvelle génération puisse créer des médias, puisse avoir des voix qui s'expriment. Et sur les 86 projets qu'on a reçus, on en a accompagné 3. Moi, je trouvais que c'était pas beaucoup, mais quand je vois que la Morilab, c'est 4, du coup, en fait, je me dis
qu'accompagner... Et vous payez leur loyer.
Oui, c'est vrai. Accompagner 3 projets, en fait, c'est... Ou 4 projets, ou 2 projets, c'est déjà tellement important, en fait, qu'il y a pas, pour moi, il n'y a pas de challenge de nombre ou de masse. 3 projets qui sont en cours d'accompagnement en ce moment.
On peut les citer, hein. Donc, il y a le 4 heures qui est assez connu, qui avait été lancé par des étudiants du CFJ à Paris. Il y a Nothing But The Wax, qui est donc un site qui s'intéresse à la mode africaine, un blog qui veut devenir un média. Et il y a Bug, qui est une application qui s'intéresse aux nouvelles technologies.
Voilà, 3 projets qui réfléchissent à des questions de société, à des manières de la raconter, et qui chacun ont des projets forts et qui ont, à mon avis, besoin de voir grand en termes d'audience, de succès, de viabilité, et aussi de voir fort dans la qualité des contenus éditoriaux qui vont sortir. Et souvent, en fait, je dirais que si on arrive à faire que des projets de journalistes deviennent des projets de journaux entrepreneurs, on va avoir au moins réussi la moitié de notre projet. On a eu des journalistes qui sont rentrés dans Media Maker, très honnêtement, et le challenge, c'est de faire que ces projets-là soient des projets qui restent des projets de journalistes parce que c'est leur ADN, c'est leur force, mais à un moment donné, il faut qu'ils aillent au-delà de ça. Et Media Maker, à ce rôle-là, nous, ça dure 3 mois, c'est très très court, c'est vraiment une phase d'accélération, mais dans laquelle on essaye de mettre les projets dans la bonne direction. Et sur ce que vous disiez, l'échange que vous aviez tout à l'heure, dans l'histoire de Street Press, ce que disait Jean-Christophe, il disait qu'il a été au contact d'autres entreprises, d'autres projets, etc. Notre but, c'est pas nécessairement que les projets de Media Maker restent que entre journalistes toute leur vie. Parce que typiquement, Street Press, pendant 2 mois, on n'avait pas de locaux. On a frappé à la porte de la cantine, qui était l'ancienne Huma. Ils nous ont dit, mais venez, vous avez déjà participé à des hackathons chez nous. On vous héberge pendant 2 mois, on vous dépanne. Ces 2 mois-là, ils ont été fabuleux pour nous. Parce que pendant 2 mois, on a croisé des entreprises du tech. On a croisé des mecs qui n'avaient rien, qui nous disaient, j'aurais 10 millions de visiteurs dans 3 mois. Et du coup, des gens qui nous donnent d'autres choses, en fait, pendant ces échanges qui sont complètement informels. Et du coup, je ne suis pas sûr que le but, c'est qu'il reste que entre projets journalistiques. Pendant une phase d'incubation longue de 6 mois, de 1 an, de 2 ans, je pense qu'on a vraiment à gagner à mixer parce qu'un journaliste doit être dans la société.
Donc tu veux dire par là en gros que l'idée d'avoir des incubateurs dédiés aux médias, c'est pas forcément une bonne idée, c'est intéressant de se mélanger.
En fait, ce que je dis, c'est
Mais il faut quand même une part d'expertise média parce que ce que tu as expliqué sur le modèle.
Ce que je dis, c'est qu'il faut un accompagnement dédié à des médias et à des projets éditoriaux et à ce que c'est que le financement de la presse, le marketing de la presse, le développement de l'audience, de l'abonnement, etc. Mais à un moment donné, le but, c'est pas que les journalistes restent toute leur vie entre journalistes et entre projets médias. Donc je pense qu'il y a un temps d'accélération dédié aux médias ou d'accélération plus longue, je veux pas prêcher pour ma paroisse, qui est super important et qui doit être vraiment dédié à ces projets. C'est important aussi qu'il y ait des moyens dans une structure d'incubation qui soit dédiée à ces projets-là. Parce que quand vous avez des challenges juridiques, c'est spécifique à la presse. Quand vous avez des challenges marketing, c'est souvent des sujets dédiés à la presse. Mais à un moment donné, laissons pas les journalistes tout seuls dans leurs projets. Parce que moi, ce que je vois des projets que j'accompagne et que je coach, c'est que ces projets éditoriaux-là, ils sont bons. Mais le risque, c'est que les journalistes restent journalistes. Et à un moment donné, vous êtes patron d'un projet média, donc vous êtes journaliste, vous êtes aussi journaliste entrepreneur. Et du coup, le contact d'autres entrepreneurs, d'autres secteurs, business, marketing, créatif, etc., c'est super important. Et c'est ce qui va faire que vous allez avoir de la richesse dans votre projet. Donc je pense en fait qu'il y a besoin d'un accompagnement dédié, mais je pense qu'il ne faut pas nécessairement laisser les projets médias juste entre eux.
Mais il y a quand même, alors ça c'est une question que j'adresse à tout le monde, et puis peut-être à des personnes dans le public, il y a quand même quelque chose de particulier, sans faire du corporatisme dans le journalisme, c'est qu'il y a une nécessité d'indépendance par rapport à d'autres intérêts pour être juste, pour être crédible. Un journalisme sans crédibilité, ça vaut rien, c'est de la pub. Comment est-ce qu'on fait pour inculquer ces choses-là alors qu'on est quand même dans des modèles d'affaires totalement californiens où on va créer à la fois des services qui vendent du dentifrice ou des médias? Comment est-ce qu'on fait pour garder ça à l'esprit? Et c'est le 5e, le 6e pouvoir, je sais pas, mais c'est quand même un pouvoir et c'est quand même quelque chose qui a un rôle social. Comment on fait pour garder ça à l'esprit?
C'est génial que tu dises californien pour la suite de ma réponse. Le premier sujet, c'est par rapport à l'indépendance de journalistes dans des petites structures ou même dans des grandes, en fait, c'est de connaître l'écosystème autour. Si vous comprenez pas ce qui se passe autour, votre indépendance, vous l'aurez pas. Et maintenant, si on parle de Californie, il y a une histoire très connue qu'on enseigne peut-être en école de journalisme en France, mais j'en ai pas fait, qui est celle du LA Times, où ils ont eu un scandale dans les années 90, où ils avaient instauré vraiment une muraille de Chine entre les rédactions et les journalistes. Et à un moment donné, ils se sont trouvés embrouillés par le patron, qui leur faisait croire qu'ils faisaient du journalisme, et en fait, ils faisaient de la com. Ça avait fait un grand scandale à l'époque, c'était à l'inauguration du stade de Los Angeles, c'est pour ça que je dis ça, où en gros il s'est retrouvé à faire un supplément magazine, il croyait que c'était de l'éditorial, mais en fait les contenus étaient vendus par les commerciaux pubs du mag, il y avait des systèmes de rétrocommission avec les entreprises de bâtiments qui avaient construit le stade, qui mettaient la pub dans le supplément hebdomadaire du LA Times. Et en fait, si ça s'est passé et si les mecs se sont fait avoir, ils ont fait du public reportage sans le savoir, c'est parce qu'il y avait une muraille de Chine entre les deux univers et qu'ils n'ont pas compris ce qui leur arrivait. Et je pense vraiment que dans des petites structures, vous ne mettrez pas de muraille de Chine entre les commerciaux et les rédacteurs.
Mais il y a un monde entre être sensible aux réalités économiques d'un média et être totalement imprégné d'une idéologie aussi, qui est une idéologie de l'entrepreneuriat, qui est une idéologie de la puissance des actionnaires. Enfin, il y a plein de choses qui sont liées à cet univers des startups. Tout le vocabulaire est anglo-saxon. Il y a une mode, il y a un suivisme. Il y a un monde entre être sensible au modèle économique de son média et rentrer complètement dans cet univers sans garde-fou et sans se rendre compte qu'il y a aussi peut-être des choses à adapter parce que la presse et l'information, c'est pas n'importe quel business.
Alors, je pense que c'est vraiment lié au patron de presse et au patron des médias. Ça, c'est lui qui va poser l'ADN et la règle. Deux, si je prends juste l'exemple de Street Press, quand on l'a lancé il y a 6 ans, si vous prenez les statuts de Street Press, c'est une structure d'entrepreneuriat social. En gros, vous investissez dans Street Press, vous n'aurez jamais de dividendes en fait sur votre investissement. C'est d'ailleurs plus, alors il faudrait peut-être qu'on change à un moment donné, que la fondation d'intérêt général qui est créée, où il ne doit pas y avoir plus de 20%, si je ne me trompe pas, des dividendes qui sont, des profits qui sont reversés aux actionnaires. Donc en fait, c'est l'entrepreneur média qui pose, à un moment donné, son cadre, son projet éditorial, son projet... Du coup, on a parlé d'entrepreneuriat, mais aujourd'hui, on parle aussi, par exemple, énormément de social business. Moi, je pense que Street Press, c'est un social business. C'est-à-dire un projet qui a un impact sociétal fort. Et quand je l'ai créé, je me suis dit, mais attention, qu'est-ce que je crée? Est-ce que je crée une entreprise? Ouais, parce que j'ai ce challenge de la viabilité. Mais deux, mon objectif numéro un, c'est d'avoir un impact sur la société. Et je me suis dit, qu'est-ce que je crée? En fait, je crée une structure d'entrepreneuriat social. Et je pense qu'aujourd'hui, grosso modo, un média et un projet éditorial, ça a d'abord un impact social, sociétal très fort. Et donc, dans la philosophie de Street Press, quand on l'a créé, on s'était mis dans ce cadre-là. Mais ça... Je veux dire par là que, par exemple, un projet d'incubateur média, il aurait vachement de sens avec des structures qui sont sur ces sujets-là. Et on le voit dans l'accompagnement de MediaMakers, et après je me tais, les MediaMakers de MediaMakers, ils passent du temps avec des équipes Anuma, ils passent du temps chez Creatis parce qu'il y a pas mal de jurés qui sont chez Creatis, que le spiel est dans l'histoire, mais ils ont passé du temps aussi avec Make Sense, qui est un incubateur social, parce que quand ils réfléchissent à leur projet, à leur communauté, à la valeur sociale de ce qu'ils créent, à un moment donné, il faut aussi des structures qui soient là-dedans. C'est pour ça que je pense vraiment que ce temps de coaching et d'accompagnement, il doit prendre et la dimension éditoriale, et la dimension business, et la dimension du rôle social du média concret.
Je pense que certaines des personnes qui sont ici ou des personnes qui nous écoutent s'intéressent à l'entrepreneuriat. Et en même temps, l'entrepreneuriat, c'est peut-être un secteur où beaucoup de gens se sentent un peu démunis. On ne sait pas par où commencer, on ne sait pas si c'est vraiment fait pour nous, etc. Qu'est-ce que c'est, vous, donc, dans vos différentes expériences, les conseils, les grandes lignes que vous adresseriez à quelqu'un qui vient vous voir et qui vous dit « Je veux entreprendre dans le journalisme, je veux créer un média, créer une solution dans l'univers des médias, etc. » Qu'est-ce que vous diriez à ces personnes, d'après votre expérience ? Donc Jean-Christophe Boulanger pour Le Spiel et pour Contexte.
Je lui dirais que pour moi, la clé de la réussite pour un entrepreneur de presse, c'est de trouver l'adéquation entre un projet éditorial et un modèle économique. Ce qui est dur, c'est de travailler les deux et de trouver une adéquation, une cohérence entre les deux. Il y a plein de projets éditoriaux qui peuvent marcher, il y a plein de modèles économiques qui marchent. Ce qu'il faut, c'est trouver la bonne jonction entre les deux.
Nathalie Guichère, donc, du groupe Amaury et d'Amaury Lab.
Moi, je pense qu'un entrepreneur, il faut avant tout qu'ils identifient les facteurs clés de succès de leur métier, qu'ils rencontrent les gens du réseau. Et je pense qu'il y a une vraie prise de conscience aujourd'hui en France que l'entrepreneuriat, c'est la voie du futur.
Émilie Friedli pour Creatis.
Ok, moi je lui donnerais le même conseil que celui qu'on peut donner à des entrepreneurs qui viendraient et qui voudraient travailler dans tout secteur de la culture et pas uniquement les médias. Et je lui dirais à peu près la même chose, mais je l'expliquerai autrement, c'est entoure-toi correctement. En fait, on a des entrepreneurs qui veulent se lancer seuls, ou des gens qui ont une idée et qui se disent j'y vais, go. Et c'est extrêmement compliqué de porter un projet seul. Et le plus important, c'est vraiment de s'entourer des bonnes compétences autour de soi. Et un des premiers critères pour nous d'acceptation des projets à Creatis, c'est l'équipe. Voilà.
C'est presque un lieu commun dans l'univers des startups. Jamais seul, jamais des investisseurs investissent sur
mais
une seule
oublie.
Personne. On l'oublie, ouais, non, bien sûr, non, mais il faut le rappeler. Maëlle Inizan pour Numa.
Alors, moi, le premier conseil serait sans doute d'aller voir ses lecteurs, en fait. C'est-à-dire, si on est dans un journaliste,
ses audiences,
s'adresse à des gens, imaginez qui est-ce qu'il veut toucher, qui est-ce qui va lire son magazine, son journal, qui va regarder ses vidéos. Aller les rencontrer, comprendre qui ils sont, comprendre comment est-ce qu'ils s'informent aujourd'hui, quels sont les besoins éventuels, les difficultés qu'ils rencontrent. Et c'est à partir de là qu'il va pouvoir définir un projet et comprendre où est-ce qu'il y a une niche pour lui dans laquelle il va pouvoir se positionner. Le deuxième conseil, ce serait, qui est directement lié à ça, ce serait de tester les choses. C'est-à-dire de ne pas attendre d'avoir une version finalisée, d'avoir déjà développé tout un site, exactement comme on l'a pensé dès le départ avec le beau logo, etc. Mais c'est d'essayer de réfléchir à la version la plus épurée, la plus facile à réaliser au départ, la réaliser, la mettre dans la main de ces mêmes lecteurs et de comprendre est-ce qu'on a réussi à avancer, est-ce qu'on répond à ce qu'ils veulent ou est-ce qu'au contraire on va plutôt dans le mauvais sens. C'est ça qui va permettre de corriger un peu le tir, de définir un premier projet et de partir de là, de réunir une équipe et de commencer vraiment à avancer.
Merci. Johan, le mot de la fin.
Je lui demande de quoi il veut parler et pourquoi est-ce que si on parle de ça, ça va changer les choses, le monde, etc. Et puis après, tous les autres conseils qui ont été dit.
L'atelier des médias.
La version longue de cette table ronde est à retrouver dès lundi sur l'atelier des médias, atelier.rfi.fr. Merci aux équipes des Assises du journalisme qui ont organisé cette rencontre. L'émission aujourd'hui était signée Simon Decreuse, Manon Mella, Mathias Virilli, Camille Deloche, Julien Lebot et Ziad Malouf. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine pour une émission spéciale consacrée au phénomène des séries. Une émission en deux volets signée Mélissa Barra.